Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Allô, allô, bonjour tout le monde. C'est mon segment, mon petit segment préféré qui est Culture Queer. Aujourd'hui, donc, on a avec nous Brian Solway qui est à Québec. Salut Brian, tu parles de quoi aujourd'hui?
De deux romans, Billy Ray Belcourt chez Triptyque et aussi Pierre-Luc Gagné chez Amac.
Et on a aussi avec nous, on l'a rejoint, je ne sais plus où, dans quel bout où tu es, Joël, mais tu es en ligne toi aussi aujourd'hui et tu nous parles de quoi? Allô, Joël!
Allô, allô! Je vais vous parler du festival plein écran de courts-métrages qui a eu lieu en fin de semaine, entre autres.
Ah, excellent, excellent. Et notre invité, du moins, il est au téléphone, c'est Alexis Comte qui est acteur. Allô, Alexis!
Hey, salut!
On est content de te recevoir. Et en fait, je vais commencer avec toi, Alexis, pour cette partie de l'émission. Alors, on le connaît de plus en plus, la scène culturelle, mais il vient de faire une entrée remarquée au grand écran dans un rôle qui résonne avec sa propre histoire. Le film, donc, c'est Juste Xavier de Stéphane E. Roy. Il incarne le rôle de Xavier, un avocat trans qui retrouve sa famille pour Noël après des années d'absence. Alors, ma première question, c'est ton tout premier rôle au cinéma. Et on peut dire que tu ne fais pas les choses à moitié puisque tu tiens le rôle titre. Comment on se sent quand on se voit pour la première fois sur une affiche partout là, au Québec?
Ça fait un peu bizarre, là, c'est sûr. D'abord, je vais juste corriger une chose, c'est pas vraiment ma propre histoire.
Non, c'est l'histoire qui te ressemble. En fait, ouais.
Je suis vraiment trans, mais c'est pas. C'est quand même basé sur un fait vécu, mais c'est pas sur ma vie.
Ouais.
Mais c'est vraiment c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment quasiment défoncer les portes en grand, là, parce que j'avais jamais fait ça. Puis me voir sur un grand écran, vraiment, je pensais jamais que ça allait arriver, surtout pas un rôle principal comme ça en débutant.
Oui.
C'est une chance. En tout cas, moi, j'ai savouré chaque seconde de ce projet-là. Et oui, quand je me suis vu la première fois sur l'écran, oh my God, c'est vraiment bizarre.
Ben, écoute,
moi, je me reconnaissais pas moi-même. Là.
Oui, parce que moi, je t'ai vu en personne, là, ici, en studio, dans une autre émission. Et effectivement, tu sais, t'as vraiment l'air... Est-ce que je peux dire ça, puis pas me faire fusiller, mais t'avais l'air straight, là, tu sais. Vraiment.
Ouais.
Le film raconte un retour... En fait, non, je pense qu'il faut que je parle de comment tu as eu ce rôle. C'est une actrice qui s'appelle Marilyn Bastien qui a suggéré ton nom alors que tu n'avais jamais joué au cinéma. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, cette histoire de transition entre un non-acteur et tête d'affiche.
En fait, eux, ils étaient sur le projet. Marilyn Bastien était sur le projet avec Stéphane Roy et Patrick Desrosiers. Puis, dans le fond, ils cherchaient... Ils avaient fait des castings, ils avaient fait des auditions, puis ils trouvaient pas exactement ce qu'ils cherchaient. Et puis, Marilyn et moi, on s'était rencontrés il y a une vingtaine d'années sur une émission de télé... c'était une télé communautaire, là. Je crois que ça s'appelait Sac à dos. Puis, elle s'était souvenue de moi parce qu'on avait toujours gardé contact sur les réseaux sociaux. Puis là, elle a proposé ma candidature à Stéphane Roy, qui, lui, il a trippé, il a vu mes photos, il a dit « Hey, mais en plus, t'es un vrai trans. Il était là, tout le monde en parle. Il a fait « Je suis trans. » Donc, il y a quand même une petite expérience télévision sans nécessairement être de comédien. Fait que ils m'ont fait venir en audition comme ça. Fait que moi, j'ai comme tenté ma chance. Ils m'ont donné un texte. Apprends ça. Viens en audition. Puis, hey, moi, j'étais stressé, là. Je savais pas comment ça se passait. Finalement, moi, je me suis trouvé très mauvais. Eux, ils m'ont trouvé très bon. Puis, ils m'ont demandé de revenir en audition une seconde fois avec, dans le fond, des possibles Ariane. Puis, Ariane, là-dedans, c'est la blonde, la nouvelle blonde. De Xavier. Puis, c'est ça. J'ai auditionné avec quatre potentiels Ariane. Puis, ça a été une longue journée. Il y avait aussi un autre potentiel Xavier. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai eu le rôle miraculeusement. Et d'ailleurs, l'autre Xavier potentiel, il joue aussi dans le film, mais on le voit pas longtemps. Donc, on est deux trans dans le film.
Ah, mais quand même. Ça fait pour une fois qu'il y a des rôles pour des personnes trans, on va en profiter.
Oui, exactement.
C'est un film donc, qui raconte un retour en famille. Je sais que ce n'est pas ton histoire à toi, mais c'est quand même... tu as mentionné en entrevue que tu as vécu beaucoup de situations qui ont été montrées dans le film. Est-ce que ça a été thérapeutique ou difficile de retourner dans ces émotions-là, que de la colère, de la tristesse pour les besoins de ce rôle?
Ça a été les deux. Y a des bouts que c'est difficile parce que, oui, c'est des choses que j'ai vécues différemment, mais presque pareil en réalité, là, parce que le feeling reste pareil. Mais de retourner comme dans ces sentiments-là, même si ça fait des années, je les sentais encore comme si ça venait d'arriver, mais il fallait quand même que je me dose parce que Xavier, dans le film, faut quand même qu'il soit sympathique puis qu'il se dose, on s'entend.
Oui.
Dans la vraie vie, si j'avais pu les exprimer pour vrai, mes sentiments, j'aurais probablement explosé beaucoup plus que Xavier. Dans le temps, j'ai pas explosé parce que, bon, j'avais tellement honte, j'étais tellement... puis j'étais jeune aussi. Xavier, lui, il est presque à la quarantaine. Donc, lui, il a son expérience d'adulte. Puis la thérapie, elle s'est passée où justement du fait que là, j'ai pu l'exprimer, le sentiment que moi, j'avais refoulé dans ces années-là. Mmh. Donc, toutes les fois où Xavier, il vit une situation là-dedans, il peut l'exprimer, chose que moi, j'ai pas vraiment pu le faire. Donc oui, ça a été thérapeutique. Il y a des affaires qui ont sorti. Puis en plus, moi, à ce moment-là, je venais de vivre la perte de ma mère, qui venait de décéder. Écoute, elle est décédée le 3 mars, puis on a commencé à tourner, si je me trompe pas, le 14 ou le 14, oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment très, très rapproché, mais ça m'a quand même servi parce qu'il y a des scènes où j'étais pas nécessairement triste, où je pouvais pas vraiment nécessairement ressentir la tristesse parce que moi, c'est sûr que c'était comme vraiment très, très débutant. Je pense que c'était le deuxième jour de tournage, il fallait qu'on tourne la scène, une scène que je suis dans la voiture puis que là, je suis triste. J'ai pensé à ma mère, ça a été très facile.
Je vais ouvrir quand même, juste avant de passer à autre chose, mais je vais ouvrir peut-être à mes autres collaborateurs, collaboratrices, s'ils ont des questions. Joël, c'est un peu plus difficile quand on n'est pas en studio d'intervenir, mais est-ce que tu te sens interpellé par ce que vient de dire Alexis?
Ah, ben vraiment, puis je voulais savoir, Alexis, par rapport à ton expérience de tournage et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais revivre ou tu penses plus que c'était comme une expérience d'une vie une fois?
Ben, en fait, moi, j'avais cette impression-là que ce serait comme juste un one-shot deal. Sauf que, écoute, finalement, ça a l'air que je dois pas être si pire que ça, là, parce que j'ai été approché par deux agences qui voulaient me prendre comme comédien dans leur agence. Et finalement, j'ai signé avec une agence. Je suis rendu avec l'agence Acte 1. Puis, je trippe bien raide. Ils sont super gentils. Fait que théoriquement, je devrais avoir d'autres projets. Bon, est-ce que je vais avoir d'autres projets de rôle principal? Bon, ça, on le sait pas. On lance ça dans l'univers. Mais tu sais, je sais que je suis vraiment très chanceux parce que on m'a même dit pendant pendant qu'on faisait le tournage, des comédiens qui m'ont dit, tu sais, c'est vraiment nice parce qu'il y a des comédiens qui vont faire leur carrière toute leur vie, ils vont faire une très bonne carrière, mais qui n'auront pas nécessairement un jour un premier rôle, un rôle principal. Ils vont faire des deuxièmes rôles, des troisièmes rôles, puis ça va être bien correct aussi. Donc, t'as vraiment comme défoncé les portes de choc, là, tu sais. Fait que j'avais conscience de ma chance, puis honnêtement, je l'ai vraiment savouré, puis j'ai remercié tellement de fois l'équipe, là. C'était vraiment... En tout cas, on va souhaiter que j'aille d'autres projets.
Ben oui.
Je sais bien que j'aurais peut-être pas encore des projets rôle principal, mais je vais quand même savourer chaque seconde.
Alexis, reste avec nous. Je vais quand même juste souligner que c'est quand même pas rien. En plus, on dirait en France, le cul bordé de nouilles. Genre, je viens de dire le mot cul en ondes. En tout cas, je l'ai fait, c'est trop tard. Mais parce que tu as quand même donné la réplique à des icônes, des monuments comme Rémi Girard et France Castel. Reste avec nous parce que j'aimerais... on va te reparler un peu plus tard dans le segment. Et nous, on continue.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez... Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Et c'est le temps d'aller rejoindre Brian Saint-Louis à Québec qui a deux livres à nous proposer aujourd'hui, deux livres que j'ai lus aussi, alors j'ai hâte de voir ce que t'en penses. Attendre le lunch de Pierre-Luc Gagné.
Oui, hey, puis on fait toute une émission à distance, on se croirait en pandémie, c'est drôle, mais pour une fois, tout ça à la distance, voilà. Oui, Pierre-Luc Gagné, « Attendre le lunch », un récit chez Amac qui est paru il y a quelques mois. Il écrit beaucoup, Pierre-Luc Gagné, hein, d'ailleurs, il va en publier un autre sous peu, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, vous surveillerez ça. Un petit récit que je dirais qu'il faut prendre le temps de lire. Je l'ai lu quelques fois parce que c'est un très court livre, mais j'avais l'impression les premières fois de l'avoir lu trop vite et d'avoir pas saisi vraiment toute la portée de son message. qui est très intimiste, qui nous raconte sa vie de 10 ans à 30 ans, une vie qui est marquée par sa différence. Il aime les hommes, bien sûr, vous aurez compris si on en parle à l'émission. Tout le monde le voit un peu venir avant lui, il est dans un milieu entouré de femmes, donc il y a beaucoup de commentaires comme quoi il risque d'être homosexuel dans sa vie, il doit accepter un peu cette différence-là, mais surtout aussi une différence marquée par un surpoids. Très jeune, il va être diagnostiqué comme obèse morbide. Donc, une accumulation de différences qui va faire qu'il va devoir, avec lesquelles il va devoir jongler, ça va faire une jeunesse un peu difficile, des humiliations un peu, et pas nécessairement de jeunes, souvent des adultes autour de lui. On parle entre autres d'un professeur d'éducation physique qui n'aura pas été très fin avec lui. Puis ça l'a marqué beaucoup. Là, il va vieillir un peu sa relation avec ce corps-là. Il va tenter de perdre du poids, il va aller fort dans l'exercice, il va revenir un peu à un poids plus normal par la suite. On va parler de ses premières relations, on va parler Il y a un peu de difficulté à cause des stigmas, on dirait, de son passé à se mettre de l'avant dans une relation, à penser à lui aussi. Donc, c'est un récit très personnel qui nous livre dans ce livre-là. Pour prendre le temps de le lire et le temps d'être touché, je pense que j'aurais aimé un peu plus de détails, de crunchy parfois pour vraiment bien rentrer dans cette histoire-là et tout comprendre. C'est pour ça que je suggère de le relire quelquefois. Mais c'est quand même un sujet intéressant, bien sûr, là, la différence. Il y a beaucoup de gens autour de nous qu'on connaît qui ont des problèmes justement avec le poids, qui ont eu des problèmes à se faire accepter par tout le monde. Donc, ça reste des thèmes qui sont très près de nous. Donc, un livre intéressant. Je ne sais pas toi si tu avais aimé ce livre-là aussi.
Ben, j'ai eu la même réaction que toi, mais par contre, je n'ai pas pensé de le lire une autre fois. Ça m'aurait peut-être aidé parce que je suis un petit peu, des fois, je n'étais pas certain d'avoir tout compris. Puis je me dis, si quelqu'un de plus intelligent que moi, comme toi, l'a pas dû le lire deux fois, je viens de comprendre.
J'ai quand même pris la peine de le relire quelques fois, justement. Plus je le relisais, plus j'appréciais les détails, plus je comprenais exactement où il voulait en venir. Mais voilà, un livre à découvrir lentement pour bien l'apprécier.
Donc,
Et on
attendre
se
le
dit
lunch.
à très bientôt. Voilà.
Oui. Cœur infime de Billy Ray Belcourt. J'adore cet auteur.
Oui, qui a fait beaucoup de poésie. C'est son premier roman. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès. Roman gay de l'année passée. J'ai un peu de retard dans mes lectures. C'est pour ça que je vous en parle seulement maintenant. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine de le découvrir. On va aller dans le nord de l'Alberta, notre zone favorite du Canada, bien
J'ai
sûr.
vécu là assez longtemps pour savoir qu'il fait froid en maudit. Ah, tiens, je viens de dire maudit en nom.
Bon, voilà, c'est une grosse journée pour toi. Et là, ça commence, lui, on est un peu dans un personnage d'alter ego de Billy Ray Belcourt, universitaire, qui fait des grandes études, qui prépare son doctorat. Des premiers chapitres un peu verbeux, un peu académiques, il réfléchit à sa thèse, il se demande qu'est-ce qu'il va écrire, ça décolle pas, il n'arrive pas, et il se met à réfléchir de plus en plus au fait qu'il aurait besoin d'écrire un roman pour aller vers quelque chose de plus senti, quelque chose qu'il connaît. Il veut aborder des thèmes très, entre guillemets, woke, bien sûr, mais dans le bon sens du terme, il veut parler d'acceptation, il veut parler de ses communautés, il veut parler de différence. Lui-même, il est gay, il se tient avec des personnes queer. Il a besoin d'aborder ces questions-là dans son travail, c'est important. Donc, il va retourner sur les lieux de son enfance, dans le nord de l'Alberta, pour faire des portraits de gens qu'il connaît, des portraits de sa famille, des amis. Et là, on va plonger dans un peu tout le climat social de cette région-là au fil de ces rencontres. On va parler de féminisme, justement, des questions queer. On va voir à quel point c'est difficile dans ces régions-là qui sont plus reculées, où il y a moins de monde. Il y a beaucoup de profils masqués sur Grindr, par exemple. Là, on a misère à sentir l'acceptation. Les conservateurs sont très présents. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes sur ce conservatisme-là que nous, dans un milieu urbain plus loin, on comprend moins bien, mais c'est vraiment pour eux une identité albertaine pour certaines personnes. Donc, c'est des questions, on est confronté un peu au point de vue, mais justement, on voit à quel point il y a des manques d'éducation, il y a beaucoup lui en plus, il est autochtone, donc manque des Premières Nations, il y a beaucoup de personnes qui vont devenir parents très jeunes, par exemple, qui ne sont pas capables de s'occuper des enfants, ça va créer des manques. On voit un peu la souffrance ordinaire de ces personnes-là dans ce livre-là. Donc, ça devient très touchant. Et il y a aussi, tout le long du livre, le personnage de son cousin Jack, qu'il connaît très bien, c'est son ami d'enfance, et lui, il a très mal viré. Il est en prison et on voit un peu le cheminement tout le long du roman de tout ce qui n'a pas bien été avec Jack finalement. Donc, roman très intéressant, ça nous amène vraiment dans ces communautés-là qu'on connaît peu, on est loin, et puis ça aborde énormément de questions qui sont très intéressantes, très pertinentes. On va parler aussi, bien sûr, de la réconciliation, de tout ce que le gouvernement a pu faire. On va parler des pensionnats autochtones, encore de la relation entre les Blancs et les Autochtones, qui sont difficiles dans ce coin-là. Donc, beaucoup, beaucoup de sujets lourds, mais là, on est dans le roman. Donc, ça aide à faire passer tous ces messages-là. C'est intéressant et on comprend pourquoi, là, justement, ça a remporté autant de succès, ce livre-là. Vous avez t'as aimé aussi,
oui, Cœur infime, oui, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cet auteur. Cœur infime, donc, de Billy Ray Belcourt. On continue.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Bon, il y a toujours avec moi, donc, Brian Saint-Louis à Québec, Joël Prudhomme qui... Je sais pas, t'es où, Joël? Je sais pas demandé.
je suis sur la route chez ma grand-mère.
Ah ouais, bon. Et puis, il y a toujours Alexis au téléphone. T'es toujours là, Alexis?
Oui.
Oui. Écoute, on va parler de cinéma, mais d'une autre façon, puis tu pourras intervenir si tu veux aussi. Alors, Joël, t'es allé voir, t'es intéressé à ce festival, donc...
Oui, le festival Plein Écran, qui est un festival de court-métrage. Puis, à chaque année, je le manque. Ça fait comme plein d'années que je le vois comme passer trop tard. Fait que là, cette année, je m'étais mis des alarmes. Je voulais vraiment pas le manquer. C'est un festival qui diffuse 4 films par jour. Il y a des représentations qui sont dans des cinémas locaux, mais il y a aussi une possibilité pour partout au Québec, de les écouter en ligne. Et comment ça fonctionne? C'est que la journée où le film est présenté, c'est vous avez ce 24 heures-là pour aller l'écouter sur le site de Plein Écran tout à fait gratuitement. C'est vraiment chouette. Puis c'est ça, c'est des courts-métrages. Ça varie très court à, je pense que le plus long, je pense qu'on est dans du 20 minutes. Ça tourne autour de ça. Souvent, c'est du 10-15 minutes. Puis le format de ça permet une grande liberté. Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Il y a des films d'animation. Comme c'est plus court, ben on a plus une possibilité de le faire, même si on n'a pas un gros budget hollywoodien. Là, fait que ça rend ça accessible. C'est vraiment... Il y a vraiment des belles affaires. Il y a des films pour enfants. Il y a des films plus pour adultes. Puis moi, j'ai accroché, évidemment, sur les deux films très queer que j'ai vus.
Tu me dis pas.
Il y en a un... non, ça n'a pas rapport avec l'émission. Il y en a un qui s'appelle Anyway, je pisse assis, qui est un film de 2025, réalisé par Zach Slattery. Et puis c'est un film, là, c'est vraiment un groupe d'amis qui va retourner dans sa ville natale et un des personnages, Sacha, qui est joué par Matteo Pino. Lui, dans le fond, ben, c'est un homme trans, donc c'est la première fois qu'il revient dans sa ville après sa transition et après sa chirurgie d'affirmation. Donc, on est beaucoup, puis c'est vraiment un film léger, doux. On est beaucoup dans l'importance d'avoir des proches qui sont des alliés. C'est l'importance de l'amitié là-dedans est vraiment mignonne. Fait que c'est comme un petit film. Je pense que c'est 13 minutes. On est sur la route avec eux, dans la voiture, vraiment en mode road trip. Puis il y a des réflexions du personnage de Sacha. Il y a aussi des belles petites interactions avec ses amis. Puis dans le fond, on se rend jamais à la maison. On est vraiment avec eux. Puis l'objectif, c'est de pouvoir se baigner en torse nu, qui est quelque chose qui est un beau défi pour Sacha. Fait que on les suit, dans le fond, jusque-là. L'autre film aussi
Attends,
que j'ai...
Je pense que je vais demander à Alexis de réagir, parce que je pense que c'est quand même une histoire qui doit être proche de la tienne, Alexis, ce genre de situation-là.
Oui, je ne l'ai pas vu, le court-métrage, j'en ai par contre entendu parler. Oui, effectivement, la première fois que tu te baignes avec ton torse nu après ta chirurgie, puis tu te dis je vais pas rien me faire dire ou peu importe, mais tu sais, encore là, de nos jours, ces cicatrices-là, ben, les gens, ils les connaissent. Donc, on peut encore se faire pointer du doigt, ça fait que ça reste quand même encore une peur. Mais mettons quand on est seul chez nous, dans notre piscine, ou avec juste des amis, des gens qui sont là pour intervenir si jamais on vit encore une intimidation. Parce que moi, je te parle pour mon expérience, là, parce que j'avais tellement peur de vivre une intimidation. C'est vraiment un sentiment de liberté, de enfin pouvoir dire qu'il garde, je peux le faire, là. Mais c'est sûr que ça reste quand même, de nos jours, les cicatrices sont connues, nous, dans mon temps, les gens ne se posaient pas trop de questions. Ils disaient, bon, il doit avoir une chirurgie, il doit avoir maigri, c'est peut-être enlever un surplus de peau, mais tu sais, aujourd'hui, ouais, ces cicatrices-là sont connues. Donc, on peut encore se faire pointer du doigt, mais ça reste qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ose espérer que les gens comprennent un peu plus ça, disons. Là.
Mais disons que des films comme celui-là, ça devrait aider, Joël, oui.
Ça devrait
aider. Oui, j'allais faire le parallèle aussi avec Alex que, ben, dans le fond, Mathéo est aussi un homme trans. Fait que je trouve ça vraiment rafraîchissant là, de voir des histoires racontées par et pour des personnes trans. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, vite, il y a un autre film que je peux pas voir encore parce qu'il va être à l'affiche le 28. Fait que si vous nous écoutez puis que ça vous intéresse, vous avez 24 heures le 28 janvier pour aller voir Gender Reveal. Donc, ils décrivent, évidemment, je l'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air d'être des très bons et bonnes actrices, actrices. Fait que je vous encourage, c'est complètement gratuit. C'est un court-métrage sur plein écran.
Merci beaucoup, Joël.
Je me peux plus.
Je me peux plus.
Je me peux plus! Ah, c'est le moment de nos coups de cœur. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, vous allez me permettre, je vais en faire un. Ça va me permettre, oui, d'en parler. Alors, je suis allé à Québec en fin de semaine. Je suis allé au Théâtre du Trident pour voir une des pièces les plus attendues de la saison, l'adaptation du roman « Querelle » de Robert Val, de l'écrivaine Kev Lambert. Et je vous le dis d'emblée, là, c'est une claque. Le roman, paru en 2018, racontait l'histoire donc de cette grève sauvage dans une série du lac Saint-Jean où débarque Querelle, un ouvrier montréalais au magnétisme animal. Mais le metteur en scène, Olivier Artaud, a fait un choix brillant. Il a choisi de contextualiser l'œuvre en 2026 sous l'ombre portée du retour au pouvoir d'un Trump sanguinaire aux États-Unis. Ce choix apporte une urgence politique viscérale à la pièce et on sent que la violence qui couve sur scène est le miroir de celle qui gronde au sud de notre frontière. Je voudrais souligner donc dans le rôle-titre Gabriel Lemire, c'est tout simplement exceptionnel comme performance. Il incarne Querelle, qui est à la fois un fantasme et un paradoxe vivant. C'est un homme qui dénonce la machine capitaliste tout en consommant ses amants comme des friandises. Lemire arrive à rendre toute la complexité de cet être énigmatique dont la simple présence fait basculer les certitudes des jeunes hommes de la région. Je voudrais aussi saluer le travail exceptionnel donc aussi d'Ariel Charret dans le rôle de Jezabel. Elle apporte une humanité brute à ce portrait d'une communauté en crise où, comme le dit si bien Olivier Artaud, personne n'a totalement raison ou tort. Bon, tu sais, j'aime ça quand il explique ses trucs. Tous sont prisonniers d'une tragédie qui les dépasse. Ça, c'est Olivier qui dit ça. C'est une œuvre charnelle, baroque, où le verbe devient un coup de poing. Et si vous voulez voir comment le politique rencontre le corps dans ce qu'il a de plus violent et de plus beau, bien, manquez pas ça, Querelle de Robert Val. C'est au Trident, mais ça va venir. Ils font une tournée, ça va être ici à Montréal aussi, éventuellement. D'autres coups de cœur, peut-être?
Oui, bien, oui. C'est drôle que tu parlais de Kev Lambert, parce que moi, je suis tombée sur audio, Radio-Canada, il y a des livres audio. Oui. Puis une fois de temps en temps, quand je fais de la longue route, là, en étant humoriste, j'en fais de la route. Fait que des fois, c'est le fun de me brancher sur un livre audio. Puis il y a Que notre joie demeure de Kev Lambert, là, qui est disponible, qui est lu par Marie-Thérèse Fortin. Puis j'ai vraiment aimé ça, et que je vous conseille, si vous n'avez pas eu la chance de lire le livre, là, il est disponible sur audio aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur dans notre go? Ah, je vois Brian qui allume, oui.
Ah, mais moi, je peux faire un coup de cœur qui va devenir un coup de gueule, un peu les deux en même temps.
Oui.
Sur l'autre côté. Hey, je vais être encore sur Heated Rivalry, là, mais je trouve ça... on a tous aimé la série, voilà. On a trouvé ça tous très intéressant. Mais mon Dieu que ça envahit tous nos fils d'actualité. Ah oui. Les médias sociaux, bien sûr.
100%.
On en voit...
Alexis, est-ce que tu envoies beaucoup des publications sur Heated Rivalry, toi?
Non, je ne dois pas avoir le même feed.
Mais tu voulais dire, Brian, qu'est-ce que tu vois, toi?
Mais je trouve ça intéressant parce que ça amène beaucoup de discussions. On l'a vu encore hier, tout le monde en parle. Je veux dire, il y a des gens qui ont des questions, qui discutent de ça, mais mon Dieu, que c'est pas toujours bien repris, qu'il y a parfois des pentes glissantes qui sont prises. Puis on voit aussi à quel point il y a des fans qui sont devenus complètement fous. On a le goût de leur dire, mais gérez-vous un peu, ce n'est qu'une série.
Oui.
Mais à l'aube des Olympiques, c'est intéressant de voir, bien sûr, qu'on parle d'homosexualité dans le sport et tout. Donc, du bon et du mauvais dans ça. J'ai hâte de voir quand la poussière va retomber un peu, comment on va tous analyser tout ça.
J'en peux plus.
J'en peux plus.
J'en peux plus! Ah, j'adore entendre ça. Mais c'est drôle, Brian, parce que moi, mon coup de gueule, qui était mon coup de cœur la dernière fois, c'est Heated Rivalry. Oh. J'ai lu le Media Simili Queer. Alors, je vais quand même vous dire, là, j'ai beaucoup aimé la série, mais il y a quand même des bémols, puis je pense qu'il faudrait le souligner. Alors, c'est un média indépendant LGBT qui revient sur Heated Rivalry et souligne que tous les personnages ont un corps d'athlète bodybuildé, ce qui est en soi cohérent avec des athlètes de sport, mais même le fameux barista, là je suis en train de faire du divulgachage, mais en tout cas le barista qui devient l'amant de François Arnault, mais même lui qui n'est pas supposé avoir beaucoup de revenus, bien, il y a un corps d'un gars qui passe tout son temps au gym. En fait, beaucoup de choses aussi, hein, là, cette ultra-masculinité qui participe à une représentation hétéronormative du bon gay, musclé, viril et économiquement privilégié. Il y avait beaucoup de critiques, parce que tout le monde est super masculin, il n'y a pas de folle. Le gay bourgeois, c'est sûr que les personnages principaux jouent au hockey, donc ils sont millionnaires, mais c'est finalement, on ne voit que cet aspect donc du gay baraqué. Et aussi, ben, il y avait aussi cette représentation de la sexualité. C'est le fun d'avoir des scènes érotiques, mais on laisse entendre vraiment que les hommes gays, encore une fois, sont hyper sexualisés. Alors, un bémol, si vous me permettez, à la série Heated Rivalry, des réactions?
Non, mais c'est juste une adaptation d'une série de livres en 6 épisodes.
Oui, je sais bien.
Il va y avoir des pour et des contre, il va y avoir des bons côtés et des mauvais côtés. Voilà, donc je trouve ça fascinant à quel point on analyse beaucoup, beaucoup cette série-là. Donc, ça l'en fait parler quand même, c'est intéressant, ouais. Mais voilà.
Moi, je trouve que, même chose que tu disais, Brian, c'est les répercussions des fois des commentaires de haine. N'importe quoi qui est un peu audacieux là, du côté de l'ouverture, ça va venir avec son backlash. Puis j'ai l'impression qu'on le subit un peu. La série est tellement populaire. Mm-hmm. Ça buzz en ce moment sur Internet puis sur les médias. Fait que ça, vraiment positif, mais ça amène son lot de personnes, peut-être masculinité toxique, là, qui sont comme contre. Ça fait comme un faux débat dans la sphère que je trouve un peu absurde, là, comme l'entrevue avec les joueurs de hockey hier.
Tout le monde en parle, oui.
Ah, j'ai pas vu ça.
On est diffusé quand même une semaine plus tard, mais oui, c'est correct. C'est la semaine dernière.
Ah oui, pardon. Ouais.
Alexis, est-ce que ça te fait... il nous reste une minute. Est-ce que ça te fait résonner un petit peu ce qu'on vient de dire?
Ben c'est sûr qu'il va toujours avoir... Si je comprends bien, là, parce que j'ai pas vu la série, là, mais c'est sûr que peu importe ce qu'on va écouter, il va toujours avoir des trucs qui vont un peu venir nous gosser en tant que membre de la communauté, qui vont faire « Ah, ça, c'est-tu... Je trouve que c'est limite à ça... » Mais sauf que c'est vraiment rendu propre à chacun.
Ouais,
J'espère, en tout cas, que de nos jours, c'est pas fait de façon volontaire pour blesser ou trucs de même.
Je pense pas. Mais c'est sain d'avoir des débats. On va devoir arrêter là-dessus, Alexis Comte. Donc, acteur, merci d'avoir été avec nous. Merci à Joël Prud'homme. Merci aussi à Brian Saint-Louis.
Merci
tout le monde d'avoir été là. Merci à l'équipe de Canalem. Mais surtout, merci à toi, Mathieu Tessier, d'avoir fait la mise en onde aujourd'hui. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Je suis l'animateur, le recherchiste et réalisateur de cette émission. À la semaine prochaine.